quelques mots sur le pape. Vous comprenez que c'est très difficile, quelques mots. Il paraît de plus en plus, quand on le voit comme ça, enfoui dans le Seigneur et dans la Vierge Marie. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Quand on assiste à la messe du Saint-Père, quand on concélèbre, qu'on est tout proche. Si j'étais tout proche de lui, il y avait deux évêques, un Polonais que je connais bien, c'est son grand ami, qui depuis le début que Saint-Père est pape, vient passer pendant le temps des vacances, toujours un mois, auprès de lui, et qui vit auprès de lui. Et puis un autre qui était un évêque italien. Jean-François, le père Marie-Dominique s'est mis avec les autres prêtres, il y avait au moins une trentaine de prêtres, mais autour du pape directement, on n'était que quatre, deux évêques et puis deux piou-piou. C'était très bien comme ça, mais c'est merveilleux de voir combien, quand le Saint-Père dit la Sainte Messe, combien il est vraiment là avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est absent, pas du tout. Il est très présent. Des petits signes, on voit très bien. Quand il est arrivé, par exemple, il vient, et puis, par le regard, il vous dit bonjour, et on voit bien tout ce que ça représente. Comme au baiser de paix à la place de... On voit bien que tout, combien il est présent, combien il est donné, et combien il est très pris par le Seigneur. Il est fatigué en plus de ça. On le sent. C'est très vrai, il y a une très grosse différence avec le pape avant l'attentat. Combien on sent le poids de l'Église. Ça qui est impressionnant. Alors, toujours aussi affectueux. On ne dit pas grand-chose, vous savez, parce que après la messe, là, c'était par groupe, il y avait plusieurs groupes, alors il a dit bonjour à chacun des groupes, photographié avec le groupe. Mais on ne peut pas avoir un vrai dialogue, comme il y avait deux évêques là, juste avant le petit déjeuner. C'était les évêques, c'était compréhensible. Par contre, j'ai vu Don Giovanni d'Ercole, qui, lui, est un très grand ami, différent du Saint-Père, c'est pas la même chose, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Je l'ai rencontré la première fois, là encore, c'est des rencontres providentielles, au Togo. Je prêchais une retraite au Togo, au foyer de charité, avec le père Marcel, foyer de charité de Châteauneuf. Il était tout jeune prêtre, et c'était un moment très difficile pour lui. Et il y a eu une rencontre très forte à ce moment-là. Après, il est revenu à Rome. Le Saint-Père l'aime beaucoup. Parce que ça fait partie de ces jeunes qui entourent le Saint-Père avec une très très grande affection. C'est très beau. Il est italien, il est religieux, mais il est la congrégation entièrement consacrée au pape. C'est-à-dire qu'il est là pour son travail. Et surtout du côté politique, c'est-à-dire poursuivre tous les événements le mieux possible et de la manière la plus objective qui soit, pour essayer de comprendre un peu. Sauf que j'essaie de faire parler sur les derniers événements de Moscou. Tout ça, il aime énormément la Russie. Il n'a qu'un seul désir, c'est d'aller à Moscou. Il m'a dit, j'espère que bientôt, il y aura des frères de la congrégation Saint-Jean qui iront à Moscou. Je serai là avec eux. Je ne demande que ça. Et alors, il est très inquiet, lui. Très inquiet des événements. Mais plein d'espérance, c'est sûr. Il y a un petit peu aussi ce sens que ça. Pèlerinage du pape là-bas était comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Si c'est tout à fait ça, c'est quand on regarde le hiatus entre ce qui se passe au plan politique et le geste du pape, vu de l'extérieur, on dit c'est de la folie, ça ne signifie rien. Le pape est pris par une idée qui ne correspond pas du tout à ce que la politique concrète nous dit. Et c'est vrai. Et il ajoutait, plus je fréquente le pape, plus je vois combien il est mené par l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Et il ajoutait, je crois qu'il est mené directement par la Vierge Marie, qui a comme un lien très particulier. Et c'est pour ça qu'il a cette telle détermination, cette volonté très nette que les choses doivent se faire, sachant très bien combien il est peu suivi. Il le sait. Et c'est le poids le plus lourd pour lui. Et surtout peu suivi par les théologiens. C'est ça qui lui fait le plus de mal. C'est toujours la lutte intestine. C'est sûrement cette lutte intestine qui avait le plus de peine à Jésus. Et je crois que c'est ce qui fait le plus de peine aux abeilles. Et c'est pour ça que on sent qu'il est si proche de ceux sur lesquels il peut compter, qu'il aime. Il m'a remercié, je ne sais pas combien de fois, d'être venu. Simple fait de se voir, de prier ensemble. Oui, prier ensemble, c'est beaucoup. Ça, j'avoue que pour moi, vivre la messe du Saint-Père et prier avec lui, on le sait, même à distance, mais ça ne veut rien. Il y a une grâce particulière. Et on le sent très fort. Il a demandé à toute la communauté Saint-Jean d'être très fidèle. Très fidèle. Il a recommencé en disant, Père Philippe, où est-ce qu'on enseigne encore une vraie métaphysique? Soyez fidèle à l'enseigner. Parce que c'est vrai. Vous voyez, des lieux comme à l'Angélique, même à l'Angélique à Rome, la métaphysique ne s'enseigne plus. Et l'enseignement de saint Thomas devient un secteur. Comme on enseignerait tel ou tel grand théologien. Ça aussi, ça blesse le pape, très fort. Et on est... C'est pour ça que c'est très multiple, c'est très divers. Quand on essaie de comprendre un tout petit peu, on ne peut pas le comprendre du reste. Parce que... Et d'une part, il a une telle affection visible et on le ressent tout de suite. Combien il est. Il compte sur ceux qui veulent rester fidèles. En les suppliant de rester fidèles. En sachant que la lutte prend des tournures très sournoises et très diverses. Et qu'il sent. Et vous voyez, je n'avais pas demandé à Don Giovanni d'Ercole. Je n'avais pas demandé. Mais il a dit quelque chose que personnellement, moi, je ressens très fort. Et on veut rester discret. Je ne veux pas demander au Saint-Père qu'est-ce que vous dit la Vierge Marie, vous comprenez? Ce serait d'une indiscrétion, d'une impossible. Mais on sent tellement qu'il est mené. C'est pas lui. Il est mené. Il est quelqu'un qui a donné toute sa vie depuis l'attentat. Avant l'attentat et après l'attentat. Avant l'attentat, la première fois que j'ai vu, moi, c'était extraordinaire comme liberté. Il vous posez toutes les questions possibles, imaginables. Et t'en n'en pose plus. Il réclame la fidélité. Fidélité à ce qu'on a à faire. Vous voyez, à s'y donner à fond, même si le lendemain, Dieu nous demande autre chose. Chaque fois que Dieu demande quelque chose, on s'y donne à fond. Comme un absolu. Il ne faut pas relativiser en disant demain Dieu demandera autre chose. Ça, c'est pas bon. Mais ça mettrait une indifférence qui ne serait pas bonne. Il faut au contraire se donner très à fond chaque fois. Et c'est comme ça du reste que ça coûte de changer. Parce que si on ne s'y donnait pas, ça ne nous coûterait pas du tout de changer. Alors regardons ce très grand mystère, ce chapitre 12, le sens des luttes dans l'Église. Vu dans une lumière de sagesse de Dieu. Il apparut un grand signe dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Vous voyez ce symbolisme merveilleux que nous connaissons bien du reste. Alors, la femme est prise ici de façon symbolique, c'est sûr. Et ce symbolisme désigne en premier lieu Marie, en second lieu l'Église, et en troisième lieu la petite créature que nous sommes, la plus pauvre, la plus fragile. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, et je crois que ça nous pouvons dire ça. C'est le chef-d'œuvre de Dieu symbolisé par la femme. Ah, vous voyez, là encore, hein, l'alpha et l'oméga. L'alpha, la manière dont Dieu a créé la première femme et qu'il a donnée à Adam. Elle est la dernière créature. Point d'orgue de toute l'œuvre de création de Dieu. Et comme les Benjamins sont toujours les plus aimés, et donc celle qui porte un secret d'amour, le secret d'amour du Dieu créateur. Dieu a créé par amour et par pure gratuité d'amour. Et la femme porte ce secret d'une manière plus explicite que l'homme. Et lorsqu'il s'agit de Marie, elle est celle qui est médiatrice. Comme femme. La femme, par nature, est médiatrice. Elle est celle qui fait le lien, toujours. Et elle fait très bien les liens. Quand l'homme veut faire des liens, il les fait souvent très mal. C'est curieux. Une femme fait merveilleusement les liens. Sans mentir, hein. Des liens à l'intérieur de l'amour et dans l'amour. Parce que l'amour est au-delà de la contradiction. Ici, c'est Marie, qui, chef-d'œuvre de Dieu, doit actuer en nous tout ce qui risque toujours de rester à l'état virtuel. Et Marie actue. C'est le rôle de la femme, je crois, d'actuer, d'éveiller. Rester éveillée. C'est la femme qui fait cela. C'est Marie. Dans notre vie, elle nous apprend à rester éveillée. Alors, elle est éveillée parce qu'elle est enveloppée du soleil. Le soleil, c'est Jésus. Enveloppée, portée par lui, complètement transformée par lui. La lune sous ses pieds, elle reste notre sœur. Puisque la lune, tout ce qui est sublunaire, est corruptible. Il y a quelque chose en Marie, donc, qui est absolument incorruptible, enveloppé du soleil. Et cependant, elle reste corruptible. Et la lune, sous ses pieds. Ces deux aspects, incorruptibilité, corruptibilité, qui peuvent être portés. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. L'étoile symbolise de la lumière, de la doctrine. Dans la grande liturgie orthodoxe, les étoiles sont les docteurs. Et on retrouve ça dans certaines hymnes du Moyen Âge. Le docteur, il est l'étoile, il doit éclairer. Alors vous voyez, sa tête couronnée de 12 étoiles, la plénitude de la lumière. Et alors, elle est enceinte, à la fois sa joie et sa fragilité. Elle est dans une fragilité étonnante. Vous voyez que tout de suite, dans ce regard de sagesse, les deux maternités sont liées. La maternité joyeuse de Marie auprès de Jésus. La maternité douloureuse de Marie auprès de Jean et de l'Église. Là encore, c'est le propre de ce style de l'Apocalypse. C'est de voir le temps dans la lumière de l'éternité. C'est ça qui est très difficile pour nous. Parce que nous voyons tout dans la dimension du temps. Le temps est le conditionnement le plus radical et le plus foncier qui est en nous. Il y a le temps et le lieu. Le lieu est un conditionnement moins profond que la question du temps. Je crois que le conditionnement du temps, c'est celui qui nous marque le plus. Et quand un vieillard commence à perdre la notion du temps, l'enfant a très mal la notion du temps. Demain, demain, demain. Je ne sais pas très bien ce que ça représente demain. L'homme adulte sait très bien. Il a son carnet sur lequel il marque demain. Les rendez-vous. Le vieillard ne sait plus. Confond, il perd la notion du temps. Alors, c'est très important de voir ici, tout de suite, l'éternité qui assume le temps. Vivre de l'instant présent dans la lumière de l'éternité. C'est ça qu'on doit dire. C'est pas vivre de l'instant présent. Le philosophe vit de l'instant présent. C'est le réalisme de vivre de l'instant présent. Mais le saint vit de l'instant présent dans la lumière de l'éternité. Parce qu'il est toujours lié à l'éternité. Et il voit tout dans la lumière de l'éternité. Et c'est bien son regard de l'Apocalypse. Et c'est ça qui est si difficile pour nous d'interpréter l'Apocalypse. Parce qu'on l'interprète forcément, historiquement. Alors, c'est pas historique. C'est historique, mais c'est bien plus qu'être historique. C'est l'éternité dans le temps. L'éternité dans le temps, c'est... C'est pas un regard historique, c'est un regard mystique. On touche l'éternité sans du tout oublier le temps. Celui qui commence à perdre le temps, il perd les pédales. C'est pas l'aspect mystique. L'aspect vraiment mystique, c'est de vivre de l'éternité dans le temps. Et parce qu'on vit l'éternité, le temps prend une valeur extraordinaire. L'instant présent. C'est par l'instant présent que je peux être uni à Dieu. Plus par le passé. Passé, passé. Pas encore par le futur. Donc je ne vis pas dans le futur et je ne vis pas dans le passé. Parce que Dieu n'est pas dans le passé, Dieu n'est pas dans le futur. Tu es dans l'instant présent. Or, je cherche à m'unir à la volonté de Dieu. À ce que Dieu veut pour moi. Je cherche à vivre du regard du Christ sur moi. Et ce regard du Christ, il m'est donné dans l'instant présent, lié à l'éternité. Parce que le regard du Christ, c'est l'éternité. Et moi, je suis dans le temps. Je ne suis pas encore dans l'éternité. Parce que je suis dans la foi. Et la foi me met dans le temps. Et cependant, la foi me permet d'adhérer à l'éternité. Et l'espérance me permet de faire que l'éternité vienne vers moi. C'est le propre de l'espérance. Et dans l'amour, j'en vis. Alors, je ne peux ni rejeter l'éternité, ni perdre le sens de l'instant présent, du jugement d'existence. Ceci est. Le vieillard vit du passé comme vieillard. Et on dit vite très vieux. Parce qu'on parle de la psychologie du vieil homme. Et l'enfant vit l'avenir. Il n'y a que l'homme mûr qui vit l'instant présent. Et le saint vit de l'instant présent assumé par l'éternité. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Vous voyez, c'est des réalités biologiques dont toujours l'écriture se sert. Il y a quelques années, quelqu'un avait dit: on pourrait peut-être écrire un nouvel évangile ou un nouveau livre de la révélation en remplaçant toutes les comparaisons qui sont au niveau biologique, les remplacer au niveau mécanique. Ça n'a pas duré, heureusement. Faites l'expérience, vous verrez. Je ne sais pas comment on pourrait dire ici. C'est pas commode, hein. Quand le travail arrive à terme, après le travail, il arrive à terme. Oui, mais le travail qui arrive à terme, la machine, elle ne crie pas gare. Il n'y a pas de cri de l'enfantement. On ne peut pas. Jésus prend toutes les comparaisons et l'Esprit Saint prend les analogies de la vie biologique parce que là, il y a une analogie propre. Tandis qu'au niveau mécanique, non. C'est la réalité vivante qui m'approche de Dieu. Ce n'est pas la mécanique. La mécanique peut, dans certains moments, mais ce n'est pas immédiat. Rappelez-vous toujours la parole de Nietzsche. Elle est très forte. La mer, la montagne, la nature, disent Dieu. La ville, c'est pour ça qu'on parle de la Babylone. La ville, tout ce qui s'ajoute à la nature, c'est quelque chose qui relève de la technique et de la science. Et donc, ça fait appel à l'homme directement et non pas directement à Dieu. Par l'homme, ça fait appel à Dieu. Il faut repasser par l'homme. C'est l'homme, dans sa propre personnalité, quand il dit « je suis », qui appelle l'existence de Dieu. Ce n'est pas ce qui est fabriqué par les hommes. Il apparut un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon, rouge. Donc, selon la couleur, Il est toujours en colère. Ça, c'est la grande caractéristique du démon. Il est toujours en colère. C'est pour ça qu'il est si fatigant. C'est très fatigant d'être tout près de quelqu'un qui est toujours en colère. Ça arrive quelquefois. Ayant sept têtes, Éticone, vous voyez le déséquilibre. La tête, c'est l'intelligence. Et les cornes, c'est la puissance. Et donc, je peux à partir de là comprendre que toute l'intelligence du démon est ordonnée à la puissance tyrannique. Et sur ses têtes, sept diadèmes. L'efficacité de son travail. Sept têtes, sept diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles. Pas pour rien qu'il y a des étoiles autour de Marie, autour de la tête de Marie, qui forment une couronne. Et puis ici, les étoiles du ciel, ce n'est pas les étoiles qui sont autour de la tête de Marie. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Alors, essayons de comprendre ce symbolisme du dragon. Du serpent antique, comme il est dit un peu plus loin. Donc, toujours en colère, un déséquilibre très net, son intelligence est restée intacte, malgré le péché. Ce qui fait comprendre que les tentations sont toujours d'ordre intellectuel. C'est les sept têtes du dragon. Et Dicor. Parce que justement, toute son intelligence est ordonnée à l'efficacité et à la puissance. Et cette efficacité est montrée, puisque sur ses sept têtes, il y a sept diadèmes. Voilà le fruit de son travail. Et sa queue, il tourne le dos, à la place de contempler les étoiles. Ce que nous faisons, nous, quand nous avons le temps, contemplons. Lui, signe de dédain souverain. Le démon a une haine vis-à-vis de notre petite planète et vis-à-vis de l'univers. Cet univers physique, il ne peut pas le supporter. Et s'il pouvait le détruire maintenant, il le détruirait. Et je n'exagère pas en disant ça. Ce que je vous dis là est vrai. Il y a une haine farouche. On ne peut pas le supporter. Parce que Dieu n'aurait pas dû le faire. Mais c'est le propre de l'orgueilleux, ça. Quand on fait, quand quelqu'un réalise quelque chose qu'il n'a pas voulu, il le regarde à travers son orgueil. Et donc c'est insupportable. Et si vous pouvez le détruire, il le détruirait. Parce que ce monde physique, ce monde matériel physique, proclame que Dieu a agi. Indépendamment de la volonté de Satan, de Lucifer. Alors pour l'orgueilleux, c'est intenable, surtout que ça dure. Alors on voit très bien cette attitude orgueilleuse. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Le tiers, pour bien montrer que c'est mesuré. Sur notre univers, il n'a qu'un pouvoir partiel. L'univers ne lui appartient pas. Et comme l'univers est créé après les anges et que Dieu veut que les frères aînés aient un certain rôle sur le monde physique, les anges ont un rôle sur le monde physique. Et comme il y a une bataille entre les bons anges et les mauvais anges, eh oui, notre monde physique en sent les conséquences. J'allais presque dire que c'est la faute première de Lucifer. Faute qui se réalise dans le ciel. C'est cette faute première qui explique beaucoup plus le déséquilibre que nous voyons que la faute d'Adam. Parce que c'est dit, alors qu'on n'a jamais dit qu'Adam C'est des grabuges. Père de l'Église, saint Augustin, l'Écriture montre beaucoup plus. Et moi, ça me semble beaucoup plus dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Les anges ont un rôle sur notre univers. Évidemment, le savant ne peut pas le saisir. Seul le croyant peut le dire. Mais je constate quelquefois des choses anormales. Je dis, d'où ça vient? D'où ça vient? Alors, évidemment, on peut toujours dire qu'il y a dans la matière une indétermination radicale. Et cette indétermination radicale peut très bien expliquer qu'il y a quelquefois du grabuge. Mais cette indétermination radicale n'explique pas comment ça se fait, ce grabuge, et le sens de ce grabuge. La matière est une capacité à changement. Et qu'est-ce qui fait changer ? La matière a une certaine détermination, mais il y a une indétermination. Et c'est pour ça que il y a des actions, selon l'Apocalypse, qui sont multiples. En définitive, c'est Dieu qui est le maître de notre univers. Le roi est le maître. Mais il a des sous-offres qui sont très, très particuliers. Comme toujours. Il y en a qui obéissent en renaclant et qui obéissent matériellement en grinçant des dents, d'autant plus qu'ils n'en ont pas. Alors ils grincent des dents, c'est-à-dire qu'ils sont furieux d'obéir. Ils obéissent. Ils obéissent par rapport au monde physique, puisque Dieu leur a laissé leur nature. Tu aurais pu faire autrement, mais tu as laissé ça. Bien distinguer la grâce de la nature. Le démon garde une certaine noblesse d'intelligence. Il ne sait plus aimer. Alors parce qu'il a une noblesse d'intelligence et qu'il ne sait plus aimer, il est toujours en colère. Alors si on savait combien il était peu commode à vivre, je crois qu'on s'écarterait beaucoup plus de lui. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Vous voyez, c'est mesuré. Il les jeta sur la terre. Donc, c'est lui qui jette les étoiles sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait un désordre sur la terre. Il fait un désordre à partir du ciel. Mais il fait un désordre. C'est dit, ça. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Il y a une haine du démon à l'égard de notre faut le reconnaître. Dieu l'a créé avec sagesse. Et les savants découvrent ces lois de sagesse, cet ordre. Partiellement, ils découvrent. Le biologiste découvre cet ordre extraordinaire du vivant. Invraisemblable. Ce qu'est le cerveau humain. L'ordinateur n'est pas grand-chose à côté. Tellement c'est complexe. La complexité du vivant, de vie biologique et de l'homme. Et comment il y a une harmonie entre le monde physique et le monde biologique. Mais que le monde des vivants a quelque chose d'autre, particulier, que le monde purement matériel et physique n'explique pas. Ça, de plus en plus, il a dépensé ce monde. Un ordre naturel exige une pensée, une sagesse. Mais nous constatons aussi l'anarchie. Parce que si le monde, notre monde, est sorti net des mains de Dieu, le démon existait avant. Tout de suite été sujet de violence. Et le dragon se tint devant la femme. Alors voilà ce qui l'intéresse. La femme est l'objectif numéro un qui intéresse le dragon. L'univers physique ne l'intéresse qu'en fonction de la femme. Alors vous voyez, voilà comment il tente par sa présence. Vous voyez la différence entre la tentation du serpent et la tentation du dragon. Si vous mettez en parallèle l'alpha et l'oméga. L'ancien avant la faute, après la faute. Marie, c'est après la faute. C'est très curieux. Et c'est très intéressant de voir ça. Il symbolise du serpent, il symbolise du dragon. Il reste tout le temps serpent, même quand il est dragon. Mais le serpent, il bavarde, il jase, le serpent. Le dragon hostait. Pourquoi le dragon hostait? Pourquoi le serpent bavarde? Avant la faute, après. Après la faute, le démon, comme dragon, se présente comme le conquérant. Il intimide. Procédé d'intimidation. Et le procédé d'intimidation, c'est le silence. Je vous possède. C'est le procédé d'intimidation des professeurs qui font passer des examens. Ils posent une bonne colle. Et puis, ils font aucune attention au candidat qui est en face de lui. Pistez. 3 minutes de silence dans un examen où on ne sait rien dire, c'est terrible, ça vous enlève tout pouvoir. Le dragon, il connaît ça. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Premier examen. Pas médical, mais voyez ici, hein. C'est curieux. Hein. Cette curiosité du démon par rapport à la fécondité. Il n'a pas fait ça pour Ève, il fait ça pour Marie. Avant la faute, après. Ça, c'est très curieux, et là, je crois que c'est très important pour comprendre justement ce qu'il y a de tout à fait particulier aux tentations que nous connaissons, que Marie a connues, tout à fait différemment de nous, parce que Marie était immaculée, et le démon la traite comme si elle n'était pas immaculée, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une immaculée conception, alors qu'il connaît très bien Ève, et qu'il connaît très bien Cain, et qui connaît très bien beaucoup de descendants d'Ève, et qui nous a tous connus, psychologiquement parlant. Le démon nous a connus avant qu'un psychologue nous connaisse. Faut pas l'oublier. Il a gagné du temps. Vous savez, dans les luttes, hein, ça fait beaucoup. Celui qui connaît le premier, et qui attaque en premier lieu. C'est pour ça qu'il attaque en conquérant, comme dragon. Il se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant. La suprême jalousie. Il ne peut pas accepter la fécondité. C'est insupportable pour lui. C'est quelque chose qu'il ignore. C'est quelque chose qui lui échappe puisque c'est l'alliance avec Dieu. Pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. Alors vous voyez, la lutte est contre l'enfant. Le fruit de la fécondité. la maternité divine de Marie est une maternité divine virginale. Il s'inquiète. Il ignore tout de Marie. Il ignore tout de cette fécondité. Elle lui échappe. Dans notre univers, il y a un nouvel Éden qui échappe complètement au démon. Il a forcé les portes du premier Éden, mais les portes du second Éden, il ne les a pas forcées. Il ne peut pas les forcer. C'est Marie qui porte enfant Jésus. C'est ça le nouvel Éden. Notre Éden. Notre jardin terrestre. Notre jardin magnifique où tout est en harmonie pour Dieu. Et alors la fureur. Aucun pouvoir sur l'enfant, c'est Jésus. Le démon ignore totalement qui est le Christ. Il fait des conjectures. Il pense que c'est le Fils de Dieu. Et s'il l'ignore, il ne le sait pas. Il le sait contraint par une certaine évidence et un certain raisonnement. Directement. Et Marie, comme mère de Dieu, lui échappe complètement. Vous voyez, c'est pour ça que un orgueilleux, quand quelque chose lui échappe, il nie l'existence de cela. Et s'il est obligé d'en accepter l'évidence, il en fait la caricature. C'est le rôle du démon à l'égard de Marie. Ou il la nie, ou il en fait la caricature. Et l'enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Donc, il lui échappe totalement. Il est emporté auprès de Dieu dans la contemplation. Dans la contemplation parfaite. Et là, et la femme s'enfuit. Le désert qui est le désert de l'adoration. Par où elle échappe au démon. Mais Jésus échappe au démon ontologiquement parlant. Marie échappe au démon par sa grâce. Par la participation à la grâce du Christ. Mais elle pourrait pécher. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'elle échappe ontologiquement. Et Jésus échappe ontologiquement dans son être. Le démon ne peut rien sur Jésus. Alors qu'il peut, parce qu'il sait que Marie est une créature. Marie aurait pu pécher. Dieu a laissé à Marie une liberté plus grande qu'à nous. Et Marie aurait pu pécher. Et Marie est poursuivie par le démon. Parce qu'il est persuadé. Se détourne, qu'elle fasse attention à lui. Alors ici, on voit bien que la femme ne fait aucune attention. Voilà comment elle lutte, comment elle est notre modèle. Elle sait que discuter avec le dragon, c'est être perdu d'avance, parce qu'il est plus intelligent, même que Marie. Marie est plus intelligente pour Dieu que lui. Le démon a une intelligence plus intuitive que celle de Marie. Parce que c'est une intelligence angélique. Et Marie sait, dans sa prudence et sagesse, qu'elle ne doit pas discuter. Et c'est la fuite au désert. Dès qu'on est tenté, faisons un acte d'adoration, on échappe au démon. Le démon ne peut pas pénétrer dans notre cœur et notre intelligence qui adore. On est reclus. Et la femme s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu. Ce lieu préparé par Dieu, c'est justement son adoration et sa contemplation. Pour qu'on les nourrisse pendant 1260 jours. Alors essayez de chercher le symbolisme de ce chiffre. Ça ne doit pas être très compliqué, parce que Dieu n'écrit pas pour des choses compliquées. Il écrit pour les enfants. Nous, nous cherchons des choses compliquées. Alors que Dieu écrit pour les enfants, ces grandes images. Alors, il y a des symbolismes très simples à comprendre. Bien, on ne le comprend pas, on attend que l'Esprit Saint nous donne la lumière. Et il y eut une grande guerre dans le ciel. Ah voilà. Voilà ce qui s'est passé dans le temps. Mais avant ce temps, dans l'éternité, la grande guerre de Michael, pour bien nous faire comprendre que la lutte entre Marie et le dragon n'est pas la première. Et donc la lutte, ou plus exactement, la défaite, en face du serpent, c'est pas la première tentation. La première, c'est celle qui s'est passée dans le ciel. Alors, je ne reprends pas ce passage, simplement cela. Il fut jeté le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. Tout de suite, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel. Elle disait, c'est à présent le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté l'accusateur de celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Quatrième terme du démon, l'accusateur, le rapporteur. Chaque fois qu'on fait une bêtise, le démon l'inscrit. Vous êtes sûr, il n'en rate pas une. Ah, il est avide de ça. Ça, il jase. Tout le temps. Il est avide de raconter toutes les bêtises qu'on peut faire. Les bêtises. Dieu ne les garde pas, ces bêtises. Il les pardonne et puis c'est passé. Le démon a une mémoire prodigieuse. Mais l'accusateur de nos frères, depuis le début, hein. Car il a été jeté l'accusateur de nos frères, celui qu'ils accusaient devant notre Dieu, jour et nuit. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà le martyr. Voilà la grande réponse au démon. On offre sa vie. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Et les deux ailes du grand aigle, furent données à la femme pour s'envoler au désert, en son lieu, là où elle est nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors maintenant le serpent apparaît. Très très curieux, ça mélange comme ça. Pour bien nous faire comprendre que serpent et dragon, c'est la même réalité, mais dans deux fonctions différentes. La tentation de la ruse, et la tentation de la présence du pouvoir de celui qui sait qu'il est victorieux et qui intimide, procédé d'intimidation. Ça, c'est la tentation la plus forte, procédé d'intimidation. Pendant la dernière guerre, on disait, quand l'armée française était en déroute, on rencontrait certains qui vous disaient « Inutile de descendre, vous J'ai déjà enveloppé. C'est comme ça qu'il y a eu tant de prisonniers. C'était déjà fait. Procédé d'intimidation. Vous voyez les statistiques pour des choses qui sont imprévisibles. Les vocations regardent Dieu et non pas les statistiques. Procédé d'intimidation. Ça ne fait pas partie, je vous affirme, Dieu n'a pas besoin de l'ordinateur et de faire les statistiques pour gouverner l'Église. Absolument pas. Dieu peut, quand il le veut, convertir les cœurs. Alors je comprends qu'on s'inquiète, mais les statistiques ne doivent pas déterminer la prudence inspirée par l'Esprit Saint. Ils ne peuvent que conditionner, seulement. Ils ne peuvent pas déterminer. La détermination vient du Saint-Esprit. Vous croyez que le pape regarde les statistiques quand il fait un pèlerinage? Non. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu, un rêve. Le rêve de Compostelle. Le surrêve du 15 août. C'est évident. Qu'est-ce qui est sérieux, c'est les statistiques. Attention. Attention. Les statistiques, c'est très bien pour les choses matérielles. Mais dès que la liberté intervient, et quand intervient la grâce de Dieu, il faut comprendre ces choses-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà pourquoi exultez cieux, car vous qui y séjournez, et vous qui y séjournez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Alors comprenons bien, les hommes de la terre, c'est les positivistes. C'est ceux qui ne cherchent de vérité que dans la terre. C'est ceux qui ne cherchent le bonheur que dans la possession de la terre. C'est ceux qui ne regardent plus, qui sont plus spirituels. Il y a un langage très fort dans l'Apocalypse. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert et en son lieu. Ah, alors les deux ailes de l'aigle. C'est important, ça. On voit la stratégie du démon. Qu'est-ce que fait la femme? L'aigle, c'est l'Esprit Saint. Le grand aigle, c'est l'Esprit Saint. Et les deux ailes de l'aigle, c'est ce qui unit la femme, Marie, à l'Esprit Saint. Alors je peux dire, la foi contemplative et l'adoration. Je crois. Parce que Marie reste la plus petite de toutes les créatures. Et donc, Marie ne cesse d'adorer. Et quand on adore, on échappe aux démons. Et Marie est la créature la plus aimée. Elle vit de la béatitude de la foi. Et d'une foi contemplative. Et le serpent jeta de sa bouche derrière la femme de l'eau, comme un fleuve, pour la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint au secours de la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. L'engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon se mit en colère contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur le Ce passage serait très intéressant à préciser, à regarder ce que ça veut dire. La rage du démon contre Marie et contre la femme, l'Église et chacun d'entre nous. Lorsque nous allons au désert, lorsque nous adorons, le démon ne s'avoue jamais vaincu. Dites-vous bien ça, parce qu'il est orgueilleux. L'orgueilleux pense toujours qu'il est victorieux. Et il ne s'avoue jamais vaincu. C'est extraordinaire ça. C'est pour ça qu'il ne demande pas pardon. Il est victorieux. Tu verras. Je t'aurai. Je t'aurai. Et c'est ce qu'il a fait pour le Christ. Quand le Christ a chassé nos déserts, il est revenu. Avec la bête de la terre et la bête de la mer. Chapitre 13. Stratégie enveloppante. Il s'est servi des disciples. Il s'est servi du grand prêtre. Les deux jalousies se sont conjuguées pour livrer Jésus. C'est toujours ce que fait le démon. Quand il est battu sur un terrain, il revient 7 fois plus fort. C'est dit dans l'évangile. Quand on chasse le démon d'une maison, il revient 7 fois plus fort. C'est pour ça que je crois que nous sommes en présence. Parce que le démon revient 7 fois plus fort. Si on essaie de comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé à la réforme. Et comment la réforme pénètre l'Église par les idéologies nées de la réforme. Et par ces idéologies, elles pénètrent chez les théologiens, dans l'intelligence des théologiens, et par eux dans l'Église. Et nous sommes pris par ça. Il ne faut jamais oublier ça, le démon ne s'avoue jamais vaincu. Il faudra que Dieu arrête et l'interdise d'agir en le mettant dans le puits de soufre. Pour l'éternité, pour qu'il n'agisse plus. Parce qu'il considère la permission que Dieu lui a donnée comme un droit dans son orgueil. Alors les deux ailes de l'aigle permettent à la femme d'échapper, et le dragon alors l'attaque de façon plus sournoise. Alors ce symbolisme est très fort. Et le serpent jeta de sa bouche derrière la femme. C'est le serpent, donc c'est la ruse. De l'eau, comme un fleuve. Pour la faire emporter par le fleuve. Alors, l'eau symbolise la vie. Toujours. Là où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Parce que pour que la vie soit présente, il faut qu'il y ait l'eau. C'est donc le démon qui veut faire croire qu'il a un pouvoir sur la vie. Sa plus grande ambition. Je crois que le démon sait qu'il n'est pas créateur. Il est trop intelligent pour ça. C'est l'homme bête qui dit que Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui croit qu'il est créateur. Le démon sait qu'il n'est pas créateur. Le démon sait qu'on peut agir sur la vie. Et il va mettre toute son astuce de démon pour faire croire qu'il domine la vie. Procréation et la mort. Euthanasie et fécondation artificielle. Il y en aura peut-être d'autres, hein, mais je suis au moins en présence de deux. C'est déjà pas mal. Les deux extrêmes de la vie de l'homme. Alors on comprend de sa bouche, derrière la femme qui est la plus sensible à la vie, de l'eau comme un fleuve, pour la faire emporter par le fleuve, emporter par lui, pour qu'elle soit à son école, emportée par le fleuve qui vient du démon, donc emportée par le démon, et n'écoutant plus que lui, pour connaître ce que c'est que la vie. crois que ça, c'est la dernière rue, ce démon. Et nous y sommes, à cette rue, si on est attentif à ce qui se passe. Par la technique et par la science, le démon veut faire croire à l'homme qu'il est le maître de la conception et de la mort. Tout relève de lui, de la science et la technique. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. La terre, elle est dans les mains de Dieu. Vous voyez la lutte entre la terre et la vie. Comme c'est étonnant, ça. Alors qu'au début, dans la Genèse, Dieu s'était servi de la terre par rapport à Cain. L'infécondité de la terre. Ici, il y a séparation de la vie et de la terre. Pour pouvoir dominer la vie et faire croire qu'elle vient. Elle est au pouvoir du dragon, du serpent. Et la terre, dans ce qu'elle a de fondamental et de radical, vient au service de la femme. Les plus grands savants, quand ils pensent dominer la vie, savent qu'en face d'un cyclone, ils n'ont aucun pouvoir. Qu'en face d'un orage puissant, aucun pouvoir. Devant certains mouvements de la terre qu'ils prévoient, ils n'ont aucun pouvoir. C'est curieux. La terre vient au service de la femme. La femme qui veut adorer, qui veut contempler. Montrer les limites de la science. Certains sujets qui échappent à la science et qui échapperont toujours à la science. Le domaine de l'être, le domaine métaphysique de l'être et de la puissance radicale de la terre, de la matière, échappe. L'indétermination et la détermination radicale. L'indétermination radicale. Et la détermination radicale échappe au savant, échappe à la technique. Et sont dans les mains de Dieu. La terre vint au service de la femme pour lui permettre d'adorer plus profondément, dans une connaissance de cause plus parfaite. Je crois que c'est très fort de voir cette poursuite, quand on comprend que la femme, c'est Marie, c'est l'Église, c'est nous. Et donc cette lutte est présente, elle est fondamentale, elle est radicale. Elle n'est pas la même que la première tentation. C'est un procédé d'intimidation. Le démon montre que tout est dans son pouvoir, surtout la vie. Et alors, on voit ensuite la grande stratégie du démon. Chapitre 13. Il se sert de l'homme, la bête de la mer, pour intimider et agir. Il imite l'incarnation. Il se sert de la terre. Il se sert de la mer. Il veut se servir de l'intelligence de l'homme pour la pervertir. Et la bête de la terre, il veut se servir de la puissance de l'homme, de son pouvoir de domination, de coercition. Se servir du pouvoir de l'homme au service de la bête, de la mer, pour adorer le dragon. Alors, on va voir trois niveaux de lutte. Mais comme ce serait intéressant à creuser. Le niveau de lutte. Donc, du dragon face à la femme. Le niveau de lutte de la bête de la mer. La bête de la terre. C'est très curieux de voir qu'il y a là aussi une certaine hiérarchie. C'est une sorte de stratégie. La bête de la terre procédait toujours d'intimidation. La bête de la mer procédait de perversion d'intelligence. Et le dragon, on retrouve procédé d'intimidation et aussi la ruse, puisque la bête, le dragon, est aussi le serpent. Donc les deux. Alors lisez le chapitre 13. Et voyez comment ces chapitres 12 et chapitre 13 montrent où se situe l'ennemi. Dans une guerre, savoir où se situe l'ennemi, c'est capital. Et ce chapitre 12 et chapitre 13 nous montrent que l'enjeu de la guerre, c'est la femme, c'est Marie, c'est l'Église, c'est chacun d'entre nous, pour nous empêcher d'aimer, pour